Vivre FM, la vie des associations, podcast.
La vie des associations, c'est maintenant et nous parlons fibromyalgie. Qu'est-ce que cette maladie? On va voir ça tout au cours de cette émission. La Fibroaction, c'est l'association, le collectif d'associations plus exactement, que nous recevons aujourd'hui en la personne d'Élodie Journa. Bonjour Élodie, vous êtes responsable Média Radio.
Oui, bonjour.
Et Sophie Lamouche, vous êtes membre de Fibroaction également.
Oui, bonjour.
Alors expliquez-nous très rapidement la fibromyalgie, on connaît très peu. Qu'est-ce que c'est que cette maladie?
Alors, la fibromyalgie, c'est un syndrome qui est caractérisé de douleurs diffuses dans tout le corps, des douleurs associées à une grande fatigue, des troubles du sommeil. Donc, c'est très éprouvant, c'est très handicapant, parce que dans la vie quotidienne, on ne fait pas toujours tout ce qu'on a envie de faire.
Donc, c'est une maladie avec très fort.
C'est un problème du système, un dérèglement du système nerveux central, sur le passé. C'est-à-dire que notre cerveau envoie des informations qui sont fausses à notre corps. Par contre, si on n'en prend pas en considération ces informations, notre cas s'aggrave, paradoxalement.
Donc des douleurs insupportables.
Ça peut aller de migraines jusqu'au pied qu'on ne peut plus poser. Des douleurs insupportables qui vont des douleurs qui irradient, qui déchirent, d'oppression, intercostale. Enfin, il y a toutes sortes de maladies, de symptômes. Mais une liste absolument désarmante. Il y a 100 symptômes, résumé.
On va détailler tout ça tout à l'heure. On va commencer par l'actualité de votre association Fibroaction, puisque demain, vous avez une journée, un rassemblement pour faire connaître cette maladie. Vous avez un problème de reconnaissance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, Élodie, peut-être?
Oui, donc en fait, la fibromyalgie donc, est très très peu connue en France. Elle n'est pas reconnue par la Sécurité sociale, par exemple, malgré qu'elle soit reconnue par l'OMS depuis 1992.
Mais alors pourquoi?
Alors, pourquoi? C'est une grande question. Le souci, c'est que la CPAM, la MDPH, tout ça, ils ne connaissent pas, enfin, principalement la fibromyalgie. Enfin, c'est très peu connu et ils ne veulent pas la reconnaître.
Sophie, vous avez une explication?
L'argument mis en valeur, c'est qu'ils ne connaissent pas l'étiologie de la pathologie. Donc, ils ne peuvent pas nous reconnaître.
C'est-à-dire l'étiologie?
L'étiologie, ça veut dire l'origine de la maladie. Qu'est-ce qui fait que...
L'OMS a reconnu la
mondialement,
fibromyalgie,
voilà. Sauf la France, puisqu'elle ne reconnaît pas l'étiologie. Disons que tous les pays se moquent pas de l'étiologie, puisqu'ils recherchent tous, mais ils reconnaissent qu'il y a il y a une centaine de symptômes.
Il faut parler un petit peu plus près du micro.
Et par contre, en France, tant qu'on ne connaît pas l'étiologie de la pathologie, on considère qu'elle n'existe pas. Donc, à la Sécurité sociale, il n'y a pas de cas fibromyalgie. Dans les 40 maladies répertoriées, nous ne sommes pas répertoriés, ainsi qu'à la MDPH. Donc nous n'existons pas, socialement nous n'existons pas.
Et le gros souci, c'est que d'un département à l'autre, on n'est pas traité du tout de la même façon.
D'une caisse à l'autre.
C'est-à-dire que c'est le médecin conseil de la Sécurité sociale qui juge si on a le droit à une ALD, par exemple, ou si on a le droit à une invalidité ou autre. Et c'est un peu... comme je dis souvent, c'est un peu à la tête du client.
C'est selon les connaissances du médecin qui juge.
Et son bon plaisir.
Son
bon plaisir, parce que moi, j'ai une ALD, j'ai écrit une fois la Sécu, parce qu'elle a été refusée, et elle a été acceptée un mois après par le même médecin conseil.
Mais les choses évoluent, enfin, vous essayez de faire évoluer
les
choses.
On essaye de faire évoluer les choses, elles n'évoluent pas, on essaye de les faire évoluer.
C'est pour ça qu'on a lancé une enquête parlementaire avec...
On en parlera tout à l'heure, on va rester l'inter... sur la journée de demain, puisqu'on a encore...
journée de demain, c'est vraiment pour faire connaître au grand public, on va dire, la fibromyalgie, déjà, et réunir les politiques, les médecins et les fibromyalgiques, et l'entourage des fibromyalgiques.
Vous espérez faire reconnaître officiellement la fibromyalgie en tant que maladie?
Voilà, c'est le but.
C'est le but. En fait, aujourd'hui, c'est qu'un syndrome, ce n'est pas une maladie. Donc, on se réunit tous donc, le 12 mai. Donc, il va y avoir des fibromyalgiques des quatre coins de la France. Et on est là pour dire qu'on existe et qu'il faut qu'on nous aide parce que on n'est pas aidé par les administrations et on est là, quoi.
Donc, demain, c'est place d'Estrée dans le 7e arrondissement
de Paris.
Rue d'Estrée. Et vous avez un rassemblement, qu'est-ce que vous allez faire exactement? Est-ce qu'il y a un programme?
Oui, tout à fait, il y a un programme. Donc en fait, il y a certaines personnes qui vont être reçues par l'INSERM. Donc il y a un rendez-vous de l'INSERM qui a lancé une étude depuis 2015, donc qui devrait se poursuivre jusqu'en 2017. Donc on va en connaître un petit peu plus, savoir où ça en est. On va avoir aussi la visite de certains députés qui ont accepté de nous aider. Des médecins qui vont venir aussi parler et toute autre personne, que ce soit de l'association ou des malades, ou enfin toute personne qui voudra prendre la parole aura possibilité de s'expliquer et de dire ce qu'ils ont à dire.
Nos auditeurs sont les bienvenus s'ils pensent peut-être être atteints de la maladie ou s'ils sont vraiment persuadés d'être atteints de la maladie. Ils peuvent venir et vous poser des questions et participer à ce rassemblement.
Tout à fait. Donc tout le monde est le bienvenu, que ce soit des fibromyalgiques qui ont la maladie, des gens qui connaissent la fibromyalgie. On accueille tout le monde. On est là pour répondre aussi aux questions des gens. On est là pour se faire connaître et échanger entre nous. Donc c'est aussi un grand moment de rencontre parce qu'on se connaît beaucoup via Facebook, mais on n'a pas forcément de contact avec des gens qui habitent dans le nord et d'autres qui habitent dans le sud. Donc c'est aussi un moment d'échange qui va être très, très important en tout cas.
Oui, Sophie, vous êtes de Paris, oui. Mais vous, Élodie, vous êtes de l'Oise. Vous venez de très loin justement pour participer à l'émission.
C'est ça, exactement. Donc j'ai fait 2h30 de route ce matin pour venir à l'antenne. Donc voilà, je serai encore là demain, je refais la route ce soir, je refais la route demain pour être là le 12 mai avec les fibromyalgiques.
Et ça fait combien de temps que vous participez à Fibroaction, à l'action de cette association?
Alors moi j'ai connu Fibroaction donc, sur Facebook, il y a une antenne qui s'est créée donc, en Picardie en octobre 2015, donc je fais partie de cette antenne. On est de plus en plus nombreux, on essaye de contacter de plus en plus de personnes, on essaye de communiquer pour essayer de sortir les gens de l'isolement, parce qu'il faut savoir que c'est une maladie dont on ne parle pas, parce que les gens ont peur d'en parler, de peur qu'on se moque, de peur que c'est un handicap qui ne se voit pas. Donc on est là pour échanger, ne serait-ce que des petits conseils entre nous pour se soulager, ou même sur des médecins, enfin sur tout type de médecine, même douce.
Vous avez des permanences au sein de votre association Fibroaction dans l'Oise?
Alors une permanence au niveau de Fibroaction dans l'Oise, pas forcément, parce qu'il faut savoir qu'on est tous fibromyalgiques, donc on a tous aussi une vie professionnelle ou non dans l'association. Donc il y a un numéro qui est un numéro, on est disponible sur Facebook. Faut pas hésiter à venir nous rejoindre sur le groupe Facebook et poser ses questions, etc. Enfin, j'ai un peu perdu le fil de l'histoire.
Voilà. En tout cas, si vous habitez Paris ou ses environs, demain, la meilleure chose à faire, c'est de venir vous voir rue d'Estrée. C'est bien ça, dans le 7e arrondissement de Paris. Ça commence à 10h, ce rassemblement.
De 10h à 17h, à peu près.
Avec des pauses. Hein.
On fait une pause musicale et puis on revient parler de fibromyalgie et de fibroaction.
Jusqu'à 11h, la vie des associations sur Vivre FM.
La vie des associations, toujours avec Fibro Action, ce collectif d'associations qui lutte pour aider les patients atteints de la fibromyalgie. On a expliqué ce que c'était la fibromyalgie, on l'a expliqué, mais je ne suis pas sûre que tout le monde ait bien compris, parce que c'est assez complexe. D'une part, il y a énormément de symptômes. Sophie, il y a 100 symptômes.
Oui, il y a 100 symptômes décrits par un médecin qui les a tous répertoriés.
Bien près du micro.
Donc, ça va du mal de tête, mais avec des maux de tête où on éteint la lumière, enfin comme des céphalées, hein, c'est pas une petite migraine, c'est vraiment des céphalées très très fortes où on a des vertiges, des insomnies récurrentes, des douleurs de la tête aux pieds, et quand je dis de la tête aux pieds, c'est de la tête aux pieds, des problèmes de, comment on appelle ça, de mémoire immédiate, merci. voilà. De mémoire immédiate, c'est-à-dire qu'on parle de quelque chose et d'un coup on oublie un mot, etc. Ça arrive assez, c'est assez récurrent. Le syndrome du côlon irritable, de plus pouvoir poser les pieds, de pas pouvoir avancer, de pas pouvoir porter. Des changements d'humeur, de changements de température, c'est-à-dire d'avoir très très froid, mais à l'intérieur, et très très chaud, mais à l'intérieur de son corps, peu importe la température extérieure.
Donc il y en a une centaine, on va pas.
Voilà, oui, il y en a une centaine. Je vais faire la liste.
Mais peut-être donner des pistes si des auditeurs pensent avoir peut-être cette maladie.
Premières choses, c'est les raideurs du matin, avoir beaucoup de difficultés à sortir de son lit en posant ses pieds, les douleurs encastrées des omoplates et des douleurs intercostales, des problèmes de motricité.
Et je pense que quelqu'un qui ne connaît pas du tout la maladie, si on pouvait l'expliquer en quelques mots, ce serait comparé un peu à une grippe, avec les courbatures, la fatigue. Ça, c'est notre quotidien, en fait. On a une grippe tout le temps. Donc les douleurs varient. Donc on a toujours des douleurs en fond. Et après, suivant nos émotions, suivant ce qu'on fait dans la journée, on augmente les douleurs ou non, tout comme la fatigue. Donc sachant qu'on dort très très peu, donc c'est très compliqué à gérer.
Élodie, comment avez-vous été...
Il n'y a pas de sommeil réparateur, ça n'existe pas chez les fibromyalgiques.
D'accord, donc c'est très très...
Deux analyses du sommeil, et voilà, 2h30 de sommeil, et je suis à fond. Voilà, génial. Et je ne suis pas la seule, hein. Enfin, genre, c'est les tests.
Et Sophie, comment avez-vous été diagnostiquée, et quand avez-vous été diagnostiquée?
Moi, j'ai été diagnostiquée en 98, après un an et demi d'errance. On m'a dit qu'il fallait que je fasse le deuil de ma vie, parce que c'était terminé.
À ce point.
Oui, c'est vrai, c'est la phrase qu'on m'a dit dans un hôpital, centre de la douleur. Je vais pas citer l'hôpital, on va être gentil. Même si la personne est à la retraite aujourd'hui. Cela étant dit, on m'a dit que voilà, fallait plus que je fasse. Et que j'apprenne à faire autre chose de ma vie. Et que j'aille voir un psychiatre, parce que finalement, en France, en 98, le seul traitement qu'on avait, c'était d'aller voir le psychiatre pour parler de sa douleur. Voilà, voilà. Maintenant, c'est un peu évolué. On va voir le psychiatre et le kiné.
Donc ça, c'était en 98.
Oui.
Et qu'est-ce que vous avez fait depuis 98? Comment ça s'est passé pour vous?
Pour moi, ça a été de pire en pire, physiquement. Jusqu'à ce que j'en puisse plus du tout. Et que les médicaments... J'avais deux pages A4 de médicaments.
Chaque jour?
Chaque jour. Et j'ai lu un article un jour d'une association qui parlait de ce qui se passait à Barcelone de recherche médicale. Et j'ai fait le déplacement pour recherche de gènes qui sécrètent de la douleur, des gènes qui mutent. C'est un centre avec les États-Unis qui font des recherches génétiques. Et donc j'ai fait le déplacement et je suis positive à 70%. En France, par exemple, ces tests ne sont pas reconnus. Et j'étais suivie pendant 8 ans à Barcelone où j'avais un système de chimiothérapie et de perfusion pour arrêter les douleurs.
Est-ce que ça s'est amélioré depuis? Est-ce que ça a
fonctionné? Quand j'ai fait mon cycle à Barcelone, que financièrement, parce que c'était à ma charge, donc 3000 euros à chaque cycle de perf, faut se le permettre. Donc
3000 donc, euros tous les combien?
4 fois par an. Et je vous laisse compter, ça fait 12 000 euros par an. Juste pour
plus
ça.
Le déplacement.
Non, je parle en tout.
D'accord.
3000 euros, l'avion, l'hôtel, la perf. Donc à un moment, on ne peut plus payer. Et on retourne au Moyen-Âge, en France. Moi, pour moi, c'est le Moyen-Âge. Hein, où moi, tout ce que j'ai montré de ce que j'ai fait à Barcelone, ça n'existe pas, puisque ça a été fait à Barcelone et pas en France.
Donc vous êtes rentrée en France et vous avez retrouvé toutes les douleurs,
oui,
tout
exactement la même chose
que vous aviez quitté en Espagne.
Oui, et en France, j'ai toujours dit mon traitement, je suis venue avec tous les papiers afin que l'information circule, pas seulement pour moi, mais pour l'information principalement. Et on me l'a toujours même jeté à la face, au visage, en disant, moi je parle pas le castillan, sauf que c'est des chiffres et c'est des gènes, donc L47, dans toutes les langues ça marche.
C'est-à-dire qu'on peut prouver que vos gènes sont défectueux, vous avez des gènes qui mutent, des gènes de la douleur.
Oui, qui sécrètent de la douleur.
Voilà.
Donc ça, mais en France, ce n'est pas reconnu.
Et pourquoi est-ce que ça n'est pas reconnu alors que ça l'est en Espagne et que ça fonctionne?
Alors ça, c'est une question pour moi qui est tout à fait invraisemblable. Enfin, ça fait 3 ans et demi que j'ai arrêté le traitement en Espagne, 3 ans et demi que c'est une catastrophe pour moi. Donc les seuls pays avancés, c'est quand même le Québec... sur la fibromyalgie, les États-Unis, enfin, on va parler des francophones, la Suisse et le Québec, c'est les seuls. En France, honnêtement, l'INSERM cherche d'une certaine manière, un petit peu, et ils commencent enfin à chercher. Mais c'est les seuls. Enfin, et malgré les recherches, pour ne pas être drogué, on préfère que vous ayez mal. Voilà, ça c'est la leçon. Moi, on m'a donné un traitement, je commence à aller mieux, on l'arrête parce que sinon je vais finir drogué. Donc, il vaut mieux que j'ai mal que d'être drogué.
Donc le seul recours, la seule chance des patients fibromyalgiques en France, c'est d'être assez fortuné pour aller se faire traiter à l'étranger.
Voilà. Enfin, en tout cas, pour mon cas, oui. Je ne parlerai que pour moi, parce que j'ai pas envie de... Enfin, j'ai pas embarqué tout le monde là-dedans, mais oui, c'est mon expérience en tout cas.
En fait, on a plusieurs façons de voir les choses, parce que moi, c'est totalement différent. Moi, j'ai été diagnostiquée donc fibromyalgique en août 2014, suite à une paralysie faciale d'origine virale. Après cette paralysie faciale, j'ai été très très fatiguée. Donc, on a commencé à faire des recherches et on m'a dirigée donc vers des neurologues, vers des rhumatologues, des centres antidouleurs. Donc, c'est le centre antidouleur qui m'a diagnostiquée fibromyalgique. C'est vrai qu'avec le recul, les douleurs, je les ai depuis l'enfance. Les douleurs, on me disait à l'époque que c'était des douleurs de croissance, je les ai encore aujourd'hui. Donc, c'était pas des douleurs de croissance, sauf que
Donc ces douleurs, c'est quoi? C'est des douleurs osseuses, musculaires?
C'est difficile à dire parce qu'en fait, les douleurs sont très différentes les unes des autres. Ça va passer du coup de poignard à la brûlure, au fourmillement. Enfin, c'est
à la déchirure.
C'est vraiment très diversifié en fait. Donc, moi, j'ai eu des traitements médicamenteux. Jusqu'au jour où j'ai dit stop, parce que j'ai 3 enfants, donc le matin il faut se lever. Donc j'ai arrêté les médicaments, je ne m'en porte pas plus mal, mes douleurs sont toujours là, mais avec les médicaments ou sans, pour moi je ne vois pas vraiment de différence. Donc j'ai décidé d'arrêter les médicaments, bien sûr avec un avis médical. Je fais beaucoup de relaxation, de sophrologie, tout ce qui est médecine douce en fait, pour se relaxer. L'acupuncture aussi, apparemment, ça marche assez bien.
On va revenir là-dessus, on expliquera un petit peu ce qui peut être fait pour alléger les souffrances, juste après une pause musicale.
La vie des associations, jusqu'à 11h sur Vivre FM.
La vie des associations, nous sommes avec Élodie Journa, responsable média radio de Fibro Action, et Sophie Lamouche, membre du collectif d'associations Fibro Action. On a expliqué un petit peu ce qu'était Fibro Action, on va l'expliquer encore plus tout à l'heure, mais pour l'instant je voulais qu'on revienne sur vos témoignages. Vous, Élodie, vous avez arrêté de prendre vos médicaments, vous nous l'expliquez tout à l'heure, et vous parvenez à travailler, à avoir une vie professionnelle tout en étant fibromyalgique.
Alors oui, j'ai la chance d'avoir un patron qui est très très compréhensif et qui me permet de faire du télétravail.
Vous travaillez de chez vous?
Voilà, donc je suis pas à 100% en télétravail, mais ça me permet d'être, on va dire, 4 jours par semaine chez moi et une journée sur place.
Ce serait pas possible autrement? Vous ne pourriez pas travailler si...
Non, parce qu'il faut faire des pauses, il faut fractionner tout ce qu'on fait. Enfin, la moindre tâche, il faut la fractionner. Donc, ça me permet de faire des pauses et de recharger les batteries pour repartir mieux.
Alors, il y a différents degrés d'atteinte de la fibromyalgie. Vous pouvez encore travailler, encore avoir une activité professionnelle, mais vous, Sophie, c'est terminé?
Moi, c'était totalement terminé, oui.
Donc, vous vivez de quoi actuellement?
Je suis au RSA et je suis ravie d'être au RSA. On m'a même expliqué que j'avais beaucoup de chance d'être au RSA. Donc, visiblement, 460 €, c'est encore trop. D'après les médecins. Hein.
Et vous avez essayé d'obtenir une aide de la MDPH?
Oui, qui est refusée, puisque je suis catégorie 1, donc j'ai le droit à la carte station debout pénible. Donc je peux embêter les gens dans le métro pour pouvoir m'asseoir. C'est le seul avantage que j'ai.
Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce soit reconnu, pour que vous puissiez percevoir ne serait-ce que la AH? L'allocation adulte handicapé.
Que la MDPH reconnaisse que nous sommes handicapés. Il n'y a que ça qui peut fonctionner. Et pour l'instant, ils sont dans le déni. Mais les médecins sont dans le déni, l'administration est dans le déni de notre maladie et reprochent aux patients d'être dans le déni de leur propre maladie parce qu'ils ne font pas suffisamment attention, car s'ils faisaient plus attention, s'ils faisaient des pauses toutes les demi-heures, ils iraient drôlement bien, ces gens-là.
C'est ce qu'on vous dit. C'est de votre faute,
oui.
Vous ne faites pas assez de pause, c'est pour ça que vous êtes malade.
Si plutôt que travailler 8 heures, toutes les demi-heures, vous allongez une heure et demie, pourquoi pas? Voilà. Sauf que m'allonger une heure et demie sur une demi-heure, de toute façon, ça ne sert à rien. Et moi, je suis très avancée, quoi. Et je cumule plusieurs pathologies. mais ça les, enfin ça les intéresse pas, tout simplement. Enfin, c'est, moi je pense qu'il y a seulement un problème financier aussi. On est quand même 2 à 3 millions en France. Si vous amusez à indemniser 2 à 3 millions de personnes que vous avez niées, ça va faire très cher.
Effectivement, effectivement. Et quelle est l'attitude? Alors là, on parle des médecins qui ont une attitude négative envers vous, qui est atteint de fibromyalgie. Est-ce que c'est général en France? Est-ce que la majorité du personnel médical, des institutions, ne reconnaissent pas cette maladie? Ou est-ce que c'est mis 50%, 50%? Et qu'est-ce que
je peux dire? Moi, je suis tentée de dire plutôt 70% dans le déni, 30% qui veulent bien un tantinet nous aider, mais à un moment, il faut qu'ils arrêtent parce que, mon Dieu, la sécurité sociale va leur créer des soucis, hein, et ils préfèrent leur carrière à leurs soucis. Avec la sécurité sociale, parce que moi, c'est l'argument qu'on m'avance systématiquement, quoi. Ou avec les supérieurs. Par exemple, là, ils arrêtent mon traitement parce que le supérieur trouve que c'est pas bien, parce qu'il n'y a pas de A, il n'y a pas d'attestation pour ce qu'on me donne sur le marché.
D'accord.
Donc, ils l'arrêtent. C'est le moment où je vais mieux. Mais on l'arrête parce que le supérieur, ça fait pas bien. Par exemple, aujourd'hui, je devrais pas être vous, je vais être à l'hôpital chercher un produit que je n'ai pas. Donc, et que je n'aurai plus. Et brutalement.
Et vous êtes traité à Paris, mais oui. on ne comprend pas, on ne comprend toujours pas cette maladie.
Non, je crois que j'aurais fait à peu près tous les centres antidouleurs.
Est-ce que ça ne va pas mieux? Cette maladie est reconnue dans d'autres pays. Vous avez parlé des pays francophones, de Barcelone. Vous aviez reçu un traitement
merveilleux,
formidable,
qui m'a vraiment aidé, quoi.
Et donc, pourquoi est-ce que en France,
j'arrive avec la liste. Hein. J'arrive même avec ce qu'il y avait dans mes perfs. On me dit ah non, ça je fais pas. Mais comme si on me disait je fais pas du 36, je fais pas du 56. Si vous faisiez du 40, j'aurais votre taille. Bon, il s'avère que c'est un autre problème bien plus grave. Mais c'est exactement ce genre de conversation.
Élodie, vous lancez une enquête parlementaire, enfin vous essayez d'amorcer une enquête parlementaire justement pour que les choses changent. Est-ce que vous êtes optimiste? Comment ça se passe?
Alors en fait, moi je suis allée donc avec plusieurs personnes de Fibroaction démarcher donc Monsieur Carvalho que je connais personnellement. C'est quelqu'un qui a accepté de nous aider parce qu'il connaît la maladie, donc il est très au courant de ce que la fibromyalgie peut faire sur les personnes. Donc il a accepté de nous aider et je le remercie d'ailleurs. Donc il a lancé une enquête parlementaire qui a pour but d'améliorer la prise en charge administrative des malades. Parce qu'en fait, comme on n'est pas du tout pris en charge par les administrations, il faut qu'on ait des reconnaissances pour pouvoir toucher des indemnités. Qu'on ait des invalidités, qu'on ait des ALD. Il y a aussi une enquête donc des recherches au niveau de l'INSERM qui sont lancées donc depuis 2015, qui devrait se terminer normalement en 2017, mais c'est plus sur le plan médical. Donc ce qui n'est complètement dépendant. On fait des recherches médicales, mais il faut aussi qu'on nous aide au niveau administration et notamment au niveau financier.
Qu'est-ce que vous aimeriez actuellement? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe, que les institutions fassent?
Quand vous êtes malade, quand vous avez une maladie comme ça qui ne se voit pas, et qu'on vous dit vous n'êtes pas pris en charge à 100% pour tel ou tel truc, moi je suis suivie pour d'autres choses sur Paris, mais je ne peux pas me permettre de venir sur Paris tout le temps, parce que c'est 2h30 de route. Je suis pas pris en charge, on me donne pas la possibilité d'avoir un taxi ou autre pour me rendre à mes rendez-vous médicaux. Donc il y a certaines pathologies que j'ai dû abandonner à cause de la fibromyalgie.
Moi, même en étant ALD, on m'a jamais proposé un taxi. Hein. Ça coûte trop cher à la société. On m'en a proposé un parce que j'ai fait une analyse du sommeil et je rentrais chez moi avec les électrodes sur la tête et un bonnet. Et on m'a dit, là, on va peut-être vous faire entrer en taxi parce que ça fait beaucoup, béquilles et électrodes sur la tête. Pour les passagers, c'est peut-être pas terrible, on va vous payer un taxi.
C'est arrivé une fois?
Voilà, une fois depuis 97. Nous sommes juste en 2016, faites le compte.
Vous rencontrez des médecins hostiles, qu'est-ce qu'ils vous disent?
Non, ils nous prennent pour des rigolos, plutôt.
Ils ne vous croient pas?
Soit hostiles, soit pour des rigolos. Soit dire, ah ben, on ne sait pas ce qu'on peut faire pour vous, on ne sait pas. Alors qu'ils ont des molécules et qu'ils savent. Si moi je sais ce qui s'est passé à Barcelone, eux le savent mille fois mieux que moi. Ou ce qui se passe au Québec, ou ce qui se passe aux États-Unis, en termes de recherche. Si ça apparaît dans la presse, donc en tant que petit citoyen, je vois pas comment, en tant que chercheur, ils ne peuvent pas être au courant. Donc je parie sur leur mauvaise foi.
On va parler des chercheurs, du personnel hospitalier français, des médecins français qui, eux, sont au courant de cette maladie et qui vous aident. On en parle tout de suite après une pause musicale.
Vous écoutez La vie des associations sur Vivre FM.
La vie des associations, nous recevons le collectif d'associations Fibro Action avec Élodie Journard, responsable média, et Sophie Lamouche, qui est membre du collectif. Nous avons expliqué les difficultés pour rencontrer des médecins qui sont attentifs à cette maladie, qui s'y connaissent et qui ont de la bonne volonté. C'est quand même une maladie qui touche tout le monde, les enfants, les hommes, les femmes, qui touche environ 3 millions de personnes en France. Élodie, Sophie,
2 à 3% de la population française.
Voilà, c'est énorme.
Et avant, les hommes n'étaient pas vraiment dépistés, et maintenant, on commence à dépister les hommes. Avant, c'était des cas exceptionnels, les hommes. Maintenant, ils s'aperçoivent qu'ils ont raté certainement. C'est pas possible que d'un coup, les hommes deviennent fibromyalgiques. Donc, c'est bien qu'avant, ils les dépistaient pas. Donc, à mon avis, il va y avoir plus d'avancées du fait qu'il y ait des hommes aussi. Alors maintenant, j'ai lu le système sympathique et parasympathique du cerveau. Je vais pas faire un cours technique. Et les hommes, ça serait une fibromyalgie différente de celle des femmes.
Ah oui, ce serait différent, vraiment.
Alors que les femmes, c'est tout à fait toujours très différent, les femmes.
Il y a toujours cette idée que la femme, c'est psychologique, c'est hystérique, enfin, voilà. Inconsciemment. Mmh. Et donc, si les hommes sont aussi atteints de cette maladie, c'est que c'est une vraie maladie.
Voilà.
C'est ça.
Merci et les hommes, en fait.
Élodie, vous voyez des avancées positives? Justement, dans l'attitude des médecins, des responsables hospitaliers, vous voyez des choses positives arriver?
Des choses positives, en fait, je pense qu'il faut, quand on est suivi par des médecins, il faut vite faire le tri, en fait, en se disant que celui qui n'y croit pas, il faut le laisser et aller voir justement ceux qui nous croient et qui peuvent nous aider et qui peuvent nous suivre. Parce que un médecin qui va pas croire en la fibromyalgie, il va pas pouvoir nous aider plus que ça. Donc je pense que, enfin moi personnellement j'ai changé de médecin traitant pour ces raisons-là. Après, faut pas hésiter à changer de médecin et aller voir d'autres médecins qui nous croiront et qui pourront nous aider.
Mais ils sont peu nombreux.
Ils sont peu nombreux, effectivement.
En France.
Je vais vous faire un petit parallèle rigolo, une anecdote que j'ai eue. Je vais voir un médecin pour la première fois ou la deuxième fois, parce que ma médecin a pris sa retraite. Donc j'en cherche un autre. Et il me dit, c'est comme si vous étiez diabétique au XIIe siècle. Vous avez de la chance de ne pas être diabétique au XIIe siècle, car vous aurez été immolée par le feu sur la place publique, hein, comme sorcière. Eh bien, nous sommes au XXIe siècle.
Et on est en France.
Et nous sommes en France. Et bon, on a de la chance, on n'est pas immolée sur la place publique, c'est notre luxe.
Voilà.
Voilà, c'est une chance. D'après lui, c'était une sacrée chance. Mais on est traité comme, effectivement... les épileptiques au XIIe siècle, ou les diabétiques au XIIe siècle, ou les roux au XIIe siècle.
Et vous avez quand même une attitude plus réceptive de la part de spécialistes comme les rhumatologues, les ostéopathes?
Non.
Non, même pas?
Non. Moi, le dernier neurologue que j'ai vu m'a dit que j'avais rien à faire, il n'avait rien à faire pour moi. Ciao, bye. Sans de la douleur, je ne vais pas citer non plus.
À partir du moment où on ne prend plus de médicaments, les rhumatologues, les centres antidouleurs nous disent très vite qu'ils peuvent plus rien pour nous, parce que finalement eux ce qu'ils voient c'est donner des médicaments et ils nous parlent pas de toutes ces médecines parallèles qui peuvent exister. Je pense notamment à l'hypnose ou la sophrologie.
Ça fonctionne?
Ça soulage, en tout cas. C'est vrai que bon, je pratique pas tout, mais c'est vrai qu'en cas de pic de douleur, ça peut soulager et on peut se détacher de la douleur un peu plus facilement que si on ne connaissait pas ces techniques.
Moi, parallèlement, je suis dans un centre de douleur où j'ai eu beaucoup de médicaments. C'est eux qui veulent les arrêter, parce qu'eux, ils m'aidaient vraiment pour faire de l'hypnose et de la sophro. Donc, eux, ils décident d'arrêter les médicaments.
D'accord. Et ça, vous en êtes où, alors, actuellement? Vous êtes...
Aujourd'hui, c'est mon dernier jour de médicaments. Sinon, je ne serais pas là. Je pense que je serais dans mon lit en train d'hurler.
Donc, demain, le rassemblement, le 12 mai...
J'y vais quand même, comme je me traîne comme une chienne, mais j'y vais.
Et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
Que les gens soient sensibilisés à ça, simplement. Et que ne pas juger l'entourage aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui perdent leur famille, leur emploi, leurs amis. Donc déjà, ça, c'est un jugement sociétal qui est très lourd à porter.
Est-ce que vous êtes entouré? Est-ce que vous, votre entourage...
Pas des amis que j'avais à l'époque, non. Je suis tombée malade en 97, il me reste deux personnes de l'époque. Voilà. Mais j'ai radicalement changé de vie et d'amis. Et votre... des gens qui acceptent que j'allume à un rendez-vous, par exemple.
Oui, puisque ça doit arriver souvent.
Voilà.
Voilà.
Mais donc, être, avant, c'était pas audible.
Je pense que quand on nous diagnostique fibromyalgique, il faut se dire que notre vie d'avant ne sera plus. Et il faut repartir sur une nouvelle vie, d'autres rythmes. Et c'est vrai que quand l'entourage ne le comprend pas forcément, c'est pas évident. Mais il y en a qui comprennent et qui font ce qu'ils peuvent pour nous aider en tout cas.
Puisque vous souffrez du fibroscepticisme, c'est, ouais. Les gens ne croient pas forcément cette maladie, en tout cas en France. Ouais. Et donc l'entourage va être tenté de se dire « Ah mais c'est psychologique, c'est pas réel ».
J'ai eu ça, oui. Elle veut pas sortir de son lit, elle fait une dépression nerveuse qu'elle veut pas s'avouer, ou elle en fait une mais elle veut pas le dire. Elle est hypochondriaque, ou elle est perverse narcissique pour attirer l'attention sur elle. Enfin, j'ai eu toutes les versions avant que...
Voilà. Voilà. Mais bon, là, vous avez fait des tests génétiques. Vous êtes certaine d'avoir cette maladie, la fibromyalgie.
Non, je suis passée par tellement de centres antidouleurs qu'elles arrivent tous au même résultat. Donc, à un moment, gêne ou pas gêne. Voilà, mon capitaine. je le suis plus d'autres choses. Donc, mais ça ne change absolument rien au problème. Et l'autre fois, on me disait, oh, mais t'as une gêne. Je suis arrivée dans un état de délabrement total, et en fait, on m'avait jamais vue comme ça. Et d'un coup, les gens se sont affolés. Sauf que ça fait 10 ans qu'ils me connaissent. Mais ils me connaissent comme là où vous me voyez, pseudo-normal. Et là, d'un coup, ils savaient plus quoi faire de moi, quoi.
On va conclure cette émission. Je vous remercie de vos témoignages. Je vous remercie de soutenir l'action pour la connaissance de cette maladie, la fibromyalgie. Vous avez un magazine, on n'a pas eu le temps d'en parler. C'est le troisième numéro. Ça a commencé en janvier, c'est ça?
Voilà, tout à fait. Donc en fait, le troisième numéro est en cours de distribution. C'est un magazine qu'on peut retrouver donc, sur le site www.fibromyalgie-magazine.fr. Donc pour le moment, il se commande uniquement sur le site. Il y aura certainement c'est prévu qu'il sorte en point presse, mais pour le moment...
Et puis surtout, là on n'a plus le temps, surtout la manifestation de demain, le rassemblement c'est demain, ça. Rue d'Estrée, dans le 7e arrondissement de Paris.
C'est ça.
À partir
de la
10
place Vauban.
Voilà. Rendez-vous est pris.
Vivre FM, la vie des associations, podcast.